7h30. À très bientôt dans les Pyrénées-Atlantiques.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
La Russie est-elle encore un État démocratique? L'histoire de l'avocat Magnitsky permet d'en douter. Dénonçant la corruption des services de sécurité, il a été mis en accusation, emprisonné et est mort des mauvais traitements qu'il a subis.
Rendez-vous avec X demain à 13h30 sur France Inter.
France Inter.
La différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, c'est maintenant.
Non, mais n'importe quoi. Non, mais alors aujourd'hui, François Ruffin, le protectionnisme. Non, mais n'importe quoi. Non, mais on aura tout entendu. Et vas-y que je te cite les grands auteurs. Et vas-y Engels, et vas-y Marx, et vas-y Maurice Allais. Non, mais n'importe quoi. Non. Politique visionnaire, mesure visionnaire, c'est par exemple, je sais pas moi, taxer les sodas, voilà. Avec ça, tu peux viser le prix Nobel d'économie. Avec ça, tu resteras dans l'histoire.
Je viens de rentrer de mon boulot, là, je viens d'écouter votre émission, et puis ça m'a interloqué, parce que je viens de sortir de ma boîte où on vient d'apprendre qu'on est en liquidation judiciaire. Par rapport à votre émission, on est en plein dedans, et il y avait un administrateur qui était là, et qui nous a dit qu'en fait, on n'avait pas trop de soucis à se faire, parce que avec un calcul savant et l'âge du capitaine, on allait pouvoir déterminer, si besoin était, quelle personne allait passer à la moulinette. Donc vous rendez-vous compte, les mathématiques vont sauver l'humain. Donc ne nous inquiétons pas. Je vous appelle du Berry, là, un petit village du Cher, là, hein, d'une usine de porcelaine, hein, on est en voie de disparition, puis là, c'est plus qu'en votre disparition, disons qu'on va peut-être disparaître, mais on ne l'espère pas. Mais surtout, surtout, ne passez pas le message. Il faut qu'on meure, mais en silence. Chut.
Excusez-moi les gars, mais au lieu de pérorer sur le protectionnisme, qui, si j'ai bien compris, François Ruffin a renoncé totalement à la remise en cause du capitalisme, bon, il faut être sérieux quand même. C'est un peu petit comme ambition. Moi, j'attends autre chose. Hein. Je suis d'accord pour protéger l'industrie française, etc. Mais je pense pas que ça soit l'unique revendication qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous avez vu ce qui se passe en Grèce, quand même. L'Europe est quand même en très mauvais état. L'Union européenne, justement, celle qui nous met à genoux. Le peuple grec, avec sa ténacité, a réussi quand même à foutre un sacré bordel. Moi, je pense que ça va bientôt être notre tour aussi de nous s'y mettre. Et on ne veut pas seulement réclamer le protectionnisme.
Salut Mermet, salut les AMG. On vient d'écouter François Ruffin. Et ben, il est excellent ce type, tout simplement. Il est excellent. Il vient de démontrer des choses complètement évidentes que beaucoup de gens pensent, notamment ben, les gens qui votent pour Marine Le Pen ou ceux qui vont bientôt voter pour elle, même s'ils n'en avaient pas envie jusqu'à maintenant. Enfin, je dis pas que Ruffin soutient Le Pen, hein, c'est pas du tout. Hein. Mais tout ce qu'il vient de démontrer est une logique simple et pure, voilà, tout simplement. Et on s'en est bien écarté depuis déjà quand même quelques années. C'est à ça qu'il faut revenir, c'est malheureux à dire, mais il faut revenir à de vraies valeurs, voilà. Allez, soyez forts, bonne journée à tous. C'était Eric à l'île d'Avaux.
Salut à tous les AMG. Comme j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de messages suite à la superbe émission avec Ruffin sur le protectionnisme, je voulais juste rappeler une phrase que j'entends quelquefois sur labas.org, quand je m'auto-rediffuse les émissions de Daniel, une émission avec Frédéric Lordon qui a dit que pire que le protectionnisme, il n'y a pas, si, il y a pédophile. Voilà, ça, je trouve que ça va tellement bien. Cette phrase me fait toujours rire, ça va tellement bien avec l'émission d'aujourd'hui. Je vous embrasse tous et puis la résistance, hein, bye bye.
Ce mercredi soir sur la 5, chez Yves Calvi, c'est la fable du jour, la cigale et la fourmi. Dans le studio, 3 ou 4 experts en économie et donneurs de leçons mettent en cause la cigale grecque. Et puis en duplex d'Athènes, une journaliste grecque, elle, passablement énervée par ce qu'elle entend, nous dit des choses rarement dites depuis que l'on nous enfume tous les jours avec la fable de la cigale qui a chanté tout l'été. Elle dit que ce sont des entreprises allemandes qui importent dans son pays des oranges et autres produits agricoles, à des prix de vente inférieurs au prix de revient des productions nationales. En somme, dans la version néolibérale de la fable de La Fontaine, la fourmi Merkel, qui produit et fait des provisions, au lieu de rester enfermée chez elle, elle va chez la cigale et elle l'oblige à acheter ses surplus à bas prix jusqu'à ce que ruine s'en suive. Et malgré un automne doux, la cigale ruinée ne passera peut-être pas l'hiver.
La Grèce, berceau de la démocratie, a failli pendant quelques jours retrouver ses origines en redonnant la parole au peuple au travers d'un référendum. Ben finalement, non, ça ne se fera pas, c'est abandonné. Pourtant, ce référendum était défendu par de nombreux intellectuels européens, et pas seulement des gauchistes, hein, par exemple par Marie-France Garraud, qui n'a eu que des mots très forts et très, très vrais pour dire que le référendum était l'une des bases de la démocratie et que l'on ne pouvait absolument pas envisager d'emmener tout un peuple vers un plan d'austérité pareil sans au moins lui demander son avis. Mais ça ne se fera pas. À part ça, j'ai appris un truc très étonnant récemment. Il paraîtrait que Papa Andréou serait socialiste. Non mais on a dû me raconter une blague. Non, je suis un peu trop naïf.
Alors je voudrais dire au nom de toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, que on a peut-être oublié de le dire dans les émissions précédentes, que nous sommes absolument indignés par cet attentat criminel. Selon des témoins, c'est un cocktail Molotov qui aurait été lancé contre les bâtiments. Une enquête a été ouverte. Les occupants ont été retrouvés dans la rue, leurs affaires sur le trottoir, une centaine de personnes. Ah, attendez, ça ne doit pas être les mêmes sources. Ça, c'est un autre attentat, c'était le 24 octobre. Une semaine avant, rue des Pyrénées à Paris, l'incendie d'un squat occupé par des Roms. Un homme de 55 ans retrouvé mort calciné dans les décombres. Les familles dans la rue. Alors... Attendez, là j'ai deux informations. Mais alors, où était Monsieur Guéant? Où étaient François Fillon, Frédéric Mitterrand, Xavier Bertrand, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé, François Hollande, Martine Aubry, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Bernard-Henri Lévy pour faire part de leur indignation et de leur solidarité face à ce crime odieux et cet acte de guerre. J'ai peut-être un peu de confusion dans mes informations, je suis absolument désolé et confus. Voilà, vous avez compris, je fais allusion à un attentat précédent qui a eu lieu non loin de celui de Charlie Hebdo, dans rue des Pyrénées, à Paris. Et il y a quelqu'un de malin qui s'appelle Karine Fouteau et qui, sur le site Mediapart, a fait le rapprochement entre le traitement médiatique de ces deux attentats. Voilà, vous pouvez faire un rapprochement entre les traitements médiatiques de ces deux attentats. Évidemment que ça n'empêche pas du tout d'exprimer notre solidarité, notre amitié vis-à-vis de nos copains de Charlie Hebdo. Mais là, il y a vraiment deux poids, deux mesures qui doivent être soulignées. C'est le moins que l'on puisse dire et faire aujourd'hui. Aujourd'hui, où va-t-on ? On va avec Antoine Chao à Nice avec ses dangereux altermondialistes et dangereux manifestants d'attaque. Qui étaient drôlement à l'attaque et le sont encore, je crois, ce matin. Ils étaient encore sur le pont avec ce G20 qui finit à Cannes. Et puis, auparavant, je dois vous dire qu'on a eu effectivement beaucoup de messages suite à l'entretien hier avec François Ruffin autour de son livre « Leur grande trouille ». On attend vos réactions, vos observations, vos critiques surtout du bouquin et des idées de ce Ruffin. Et puis, puis par la suite, on verra dans les semaines à venir, on fera une réplique à vos observations. Vous pouvez le faire sur le site de France Inter, à la page là-bas si j'y suis, ou bien sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis n'oubliez pas, la soirée, la nuit des rapaces, ce sera à 19h, ce mercredi, à la salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, à Paris, dans le 11e, au métro Père-Lachaise, avec toute une série de personnalités éminentes, comme Xavier Mathieu, Nicolas Lambert, lui-même, la compagnie Jolimot, mais bien d'autres, dont Gérard Mordilla, qui viendront présenter le rapace, le plus gros et grand rapace. Et puis vous pourrez voter qui est le pire des rapaces actuels. Ce sera juste l'espace de quelques heures, on essaiera d'élire le pire des rapaces. Cette soirée est à l'initiative de Fakir, et puis là-bas, si j'y suis, a bien été obligé de s'y associer, contrainte et forcée. Donc on part pour Nice avec Antoine Chao. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour à tout le monde, nous sommes le 3 novembre, je suis rue de la Boétie, je travaille dans cette rue, et il y a une manifestation des sans-papiers qui se déroule dans la rue même. Il faut savoir que le siège du UMP est également placé et situé dans la rue de la Boétie, et donc les sans-papiers qui souhaitaient revendiquer leur légalité dans ce bas monde qu'est la France, souhaitent juste le faire devant le siège social de l'UMP, ce qui leur est complètement impossible, puisqu'ils sont barrés par des hordes de CRS, et quand je dis des hordes, c'est au moins une quinzaine de camions qui les attendent depuis le petit matin. Voilà, c'était pour dire mon mécontentement et ma déception quant à juste la possibilité de dire ce qui ne va pas et de manifester sa douleur quand on fait partie d'un pays et qu'on y travaille. Voilà, c'était Julia et je souhaite à tous les sans-papiers un grand courage.
Un message pour les AMG de la Vallée de la Rance. Notre café repère reprend. Après avoir erré pendant quelque temps pour trouver un lieu, nous avons enfin trouvé un endroit, le Café des Anges à Dinan. Donc le prochain café repère aura lieu le mardi 8 novembre à 20h, donc au Café des Anges à Dinan, au 22 Grande Rue. On vous attend tout nombreux. À bientôt.
Nous allons juger la banque.
Allez, c'est parti les bankbusters. Aujourd'hui, ici à Saint-Roch, opération désaffection de la finance et du système bancaire. Les banques sont des produits nocifs et toxiques pour la santé des citoyens. Bankbusters, en branle. Les banques sont nocives. Allez, on nettoie, on désinfecte. On nettoie aujourd'hui opération de désinfection du système bancaire organisé par Attaque.
Monnaie, monnaie, monnaie. Sous le casque, monnaie casque.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao à Nice, avec les anti-G20.
Flight number 2, arriving from New York.
So, solidarité!
Indigné, révolté!
So, solidarité!
Indigné, révolté!
So, solidarité!
À bas, les paradis fiscaux! À bas, à bas!
Ah ben, nous voilà sur l'avenue des combattants en Afrique du Nord, à Cap d'Ail. Face au G20, les peuples d'abord, pas la finance. Mobilisation G8-G20.org. C'est la tête de cortège qui s'avance vers Monaco, paradis fiscal.
Tous prêts pour la fermeture du paradis fiscal. Attention, attention. Le président Sarkozy est venu en personne constater la fermeture du paradis fiscal de Monaco.
Quelles ont été déjà les promesses faites par ces G8 ou G20?
Il n'y a eu que des effets d'annonce. La fermeture des paradis fiscaux, par exemple.
C'était quand, ça?
En fait, c'était lors du G20 de Londres. Donc, il y avait été des mesures qui ont été prises pour, en fait, faire que les paradis fiscaux qui étaient sur la liste noire des paradis fiscaux soient en quelque sorte blanchis. Pour cela, il fallait qu'ils passent des accords avec au moins une dizaine de pays. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait des accords entre paradis fiscaux. Autrement dit, ça n'impacte rien dans leur fonctionnement. Au contraire, les fonds qui circulent aujourd'hui dans les paradis fiscaux ont augmenté par rapport à l'année dernière de l'ordre de 10% encore. Donc, tout ce qui échappe, par exemple, les entreprises du CAC 40 sont imposées en moyenne sur un niveau de 8% sur les bénéfices. Donc, on voit que les plus riches échappent à l'impôt, que les règles de prudence, par exemple, qui vont être encore annoncées et énoncées lors du prochain G20, ça n'a aucun sens, ne respecte aucune règle de prudence dans les paradis fiscaux.
Et le cas de Monaco, là, on est en face de Monaco, on va marcher vers la frontière.
Monaco était sur une liste noire qui est devenue, c'était un des derniers qui avait refusé de prendre ces accords. Donc il n'est plus sur la liste noire, donc tout va bien. Donc ça a eu un changement de couleur qui permet d'assurer un meilleur avenir encore, parce qu'en fait, les gens qui vont à Monaco, ils n'aiment pas ça, qu'ils soient connus en tant que fraudeurs fiscaux, en tant que délinquants. Hein, ces délinquants en col blanc qui sont si bien reçus à Monaco. On est à Nice, par exemple, on a eu les pires difficultés pour avoir des salles, des lieux de manifestation.
Alors, vous êtes l'organisateur, hein, c'est ça, du contre G20.
On fait partie des organisateurs, en effet, du contre G20. On a eu les pires difficultés. Donc, la démocratie doit être sous le tapis à Nice. Et par contre, la finance, bienvenue à la finance à Monaco. De l'argent, il y en a. Le problème, c'est vraiment un problème de répartition. On n'a jamais eu autant de richesses en France. La répartition entre les dividendes du capital et ce qui revient au peuple, il y a une perte massive. Donc, il faut arrêter de faire payer une dette qui n'est pas une dette des peuples. Il faut revoir tout cela. Et surtout, il y a un grand appel, respecter la démocratie.
Tu te présentes ?
Franck Gaille, porte-parole du collectif contre G20 de Cannes.
Puis là, il y a un média de proximité, c'est un jeune homme qui a un cône de chantier.
En adoration !
Et qui clame des slogans dans son cône de chantier orange et blanc.
Il interpelle
les gens qui sont aux fenêtres de Cap-Gaille.
Dehors la grande déflation et son gouffre des valeurs l'argent. De l'enfer pour Fiscal.
Monnaie.
Sous le casque, monégasque. Omnipotent du pouvoir, ton. 100 euros, la somme des gens, sans un.
À bas, les paradis fiscaux.
Aucune légitimité, les membres du G20, même s'ils se sont entourés de quelques représentants de pays en développement, cela ne constitue pas une légitimité à décider pour les 192 pays de cette planète. Régulièrement, les G8, G20... finissent sur des déclarations tonitruantes contre les paradis fiscaux, contre pour limiter les revenus des traders, pour imposer une taxe Tobin, une taxe sur les transactions financières. Et à chaque fois, c'est le même effet d'annonce sans suite aucune. Et à chaque fois, on a ces manifestants qui viennent... de loin, de très très loin, parfois, qui donnent du travail à des quantités, à des milliers de policiers de tout poil et de tous équipements pour essayer de dire tout simplement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire de l'argent, il y en a, c'est une simple affaire de répartition. Là, on est avec, donc vous avez compris, ce groupe de manifestants, les anti-G20 de Cannes et de Nice, qui protestent, qui manifestent à l'entrée de Monaco, qui est bel et bien un des paradis fiscaux de cette planète qui fonctionne très bien, qui fonctionne très tranquillement. N'empêche que c'est là que se trouve une partie de la solution à cette fameuse crise générale, crise de la dette, présentée toujours comme quelque chose d'insoluble, mais que les peuples doivent payer. On entendait aujourd'hui amis grecs qui disaient ce que ça fait d'avoir 20% ou 25% de moins sur sa fiche de paye brusquement quand on a encore la chance de ne pas faire partie des près de 20% de chômeurs grecs. Voilà, c'est dans ces idées-là, dans ces préoccupations-là. C'est pas la première fois, c'est vrai, qu'on est dans ce genre de manifestation, mais voilà, il n'y a pas de raison du tout de laisser, d'abdiquer, de se replier, et sera peut-être l'occasion à un certain nombre d'entre vous de comprendre ce que c'est que le mouvement attaque, comment ça fonctionne, et qu'est-ce que c'est que la répartition des richesses. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas, si j'y suis avec les anti-G20 à Nice.
J'ai droit de partir, j'ai droit de venir, de ne pas souffrir, celui de mourir, droit à l'avenir, le droit de vieillir, le droit de sourire, celui de rire, de ne pas finir, de vous maudire, de lire, de continuer d'écrire. J'ai droit d'y croire, d'avoir l'espoir, d'avoir mon propre regard, de marcher droit avec mes travers, de marcher de travers dans mes droits. On est en vie, bande d'enfoirés, et on continue à marcher. À chaque G8, c'est la révolution qu'on vise, et mettre ça sur le dos. Prétexte à faire de nous les victimes de la récession, les nouvelles cibles de leur répression. À chaque G8, c'est la révolution qu'on frise, et ils mettent ça sur le dos de la crise. Des prétextes à faire de nous les victimes de la récession, les nouvelles cibles de leur répression. Ils nous demandent encore de leur faire confiance, pour nous l'opportunité, ouais, nouvelle chance. Ils voulaient notre accord à leur constitution, mais ce n'était qu'un choix entre noir ou blanc mouton. Chacun leur tour, les gens font revendication. Chaque jour dans la rue, des manifestations. Depuis longtemps pourtant, nous poussons le même cri, se demandant pourquoi nous restons incompris. À chaque grève des transports, les gens ont la rage, ne pouvant aller travailler, ils parlent de prise d'otage. On nous a simplement divisés pour mieux régner. Maintenant c'est chacun pour sa gueule, rêvant de solidarité. De ne pas finir, de vous maudire, de lire, de continuer d'écrire. J'ai le droit d'y croire, d'avoir l'espoir, d'avoir mon propre regard, de marcher droit avec mes travers, de marcher de travers dans mes droits. On est en vie, bande d'enfoirés, et on continue à marcher.
Sur un bout de trottoir,
800 milliards. Ah ben,
il y a l'effigie de Nicolas Sarkozy. Alors qu'est-ce qui se passe là?
Une manifestation festive, comment pour mettre un peu en cause des paradis fiscaux quand même, quoi. Hein, voilà. Puisque on en a
un peu ou beaucoup?
Un peu beaucoup.
Les actions contre les paradis fiscaux en face du vieux port de Nice, c'est pas mal avec tous les bateaux, là, les yachts qui sont amarrés.
Méfiez-vous, les paradis fiscaux, les cathos sont dans la rue. Voilà. On a peur
vous êtes
de rien.
Catholique?
Oui, oui, parce que je suis au comité catholique contre la faim pour le développement. Voilà. Et puis, comme on s'occupe quand même aussi des pays en voie de développement depuis très longtemps, pour aider au développement, on s'est aperçu quand même que les paradis fiscaux, c'est un détournement terrible. Voilà.
Alors vous êtes des cathos de gauche, quoi?
Voilà. Oh, de gauche, oui. Des cathos motivés socialement, hein. Voilà.
Alors là, l'idée, c'est qu'on pose, c'est ça, on peut s'installer dans un transat sur le vieux port de Nice, voilà. et jouer avec comme les ça les évadés fiscaux, quoi.
Voilà.
Voilà. Donc, profiter du paradis fiscal, voilà, avant l'heure,
voilà,
c'est ça.
Voilà.
Donc, chacun peut essayer le paradis, ici.
Tout à fait.
D'accord.
Ce paradis-là n'aura qu'un temps, hein. On espère, on espère.
Vous jouez sur les mots du paradis, quoi, c'est ça?
Voilà,
c'est ça,
tout à fait, tout à fait.
J'ai compris.
Voilà.
Voilà. Alors, paradis fiscal, paradis pour qui?
Voilà.
Paradis ça, pour les uns, enfer pour les autres. Ça, c'est le G20. Multinational, payez vos impôts,
voilà.
Ou vous créez vos richesses.
Voilà.
Et vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis à la retraite, moi.
Et vous avez fait
mais
quoi?
J'étais éducatrice, voilà. À Saint-Denis, dans le 9-3. Voilà. Je me suis occupée très longtemps des ados, des jeunes, dans la rue. Voilà. Des engagements, très longtemps aussi au CCFD, là. Pas longtemps. Puisque moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'était le développement. Voilà. puisque surtout pour les jeunes, parce que c'est facile des fois de donner, on voit à la télé, il y a un cataclysme, il y a un trac, donc on envoie un petit billet, puis après on est tranquille. Hein. Là, c'est pas le.
C'est de
pas,
la charité, ça.
Voilà. C'est plutôt comment donner et puis dépanner sur le moment. Puis après, basta. Non.
C'est pas pareil, la charité et l'engagement, quoi.
Voilà. Là, l'engagement peut être aussi charité au bon sens du terme. Voilà.
Au bon sens. C'est comme le paradis, quoi. Hein.
Voilà, voilà, voilà.
Il y a deux
voilà.
sens au paradis, quoi.
Voilà,
il y a
voilà.
Le bon sens du terme et voilà. Le mauvais.
Non, non, mais c'est vrai. Donc, ça pose quand même des questions. Hein. Il y a quelque chose qui se passe.
Voilà. Votre prénom, c'est
Monique.
Merci, Monique.
Elle est bien, Monique.
Elle est bien, Monique. Hein. Vous êtes de gauche, du nom. Bon, non, je suis motivé socialement. Voilà, parce que maintenant, être de gauche, c'est pas forcément être motivé socialement. Quoi. Voilà, elle est motivée socialement, cette Monique, brave dame du comité catholique contre la faim. Et pour le développement, c'est pas mal cette rencontre, parce que ça montre qu'il n'y a pas que des black blocs furieux dans ce genre de manifestation. Il y a aussi cette tendance, ces vieilles tendances de lutteurs sociaux qui ont du souffle et qui ne confondent pas la charité et la solidarité. Quelqu'un qui ne confond pas non plus, c'est Gustave Massia, que tout le monde appelle Gus. Gus Massia, qui a été très longtemps le vice-président d'Attaque France jusqu'en 2006, mais qui fait toujours partie du conseil scientifique d'Attaque France, et qui est membre du conseil national du Forum social mondial, et qui est un pédagogue hors pair. Écoutez bien, ça dure 4 minutes 17, 4 minutes, 4 minutes 17, et c'est une explication d'une clarté formidable sur la dette.
Alors, Gus Massia, dans ce contre G20, on parle beaucoup de la dette.
Hein. Bien sûr.
La dette aujourd'hui qui pose problème au système capitaliste, mais qui est un vieil outil qu'utilise justement ce système pour asservir les anciennes colonies. On peut même remonter jusqu'à Haïti, hein, qui a été saigné. Donc c'est un outil qui est récurrent dans ce système d'oppression des pays en voie d'émancipation.
En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, la gestion de la crise de la dette, parce qu'il y a souvent des dettes, puis il y a des crises de dette, et puis il y a la manière dont on gère les crises de la dette. La gestion de la crise de la dette a joué un rôle clé dans la victoire du néolibéralisme, et elle joue un rôle clé dans la crise du néolibéralisme. Donc il faut se rappeler, en 1977, la première réunion du G5, qui va donner ensuite naissance au G6, G7, G8, se fait sur le changement de paradigme avec ce qui va être la victoire du capitalisme financier sur le capitalisme industriel, c'est-à-dire le néolibéralisme. Et donc, elle se fait justement autour de la question de la dette. En fait, la première contre-offensive, celle qui commence en 1978, 79, 80, c'est justement contre la décolonisation. Et ça se fait d'ailleurs sur la crise du pétrole, puisque c'est en 1977, à partir de la crise du pétrole, que se crée le G5. Et à ce moment-là, le G5 appelle les pays à s'endetter, parce que l'idée, c'est de recycler les pétrodollars. Donc c'est un appel à l'endettement. Donc la crise de la dette est créée, en réalité, par les puissances dominantes, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et le Japon à ce moment-là. Et cet appel à recycler les pétrodollars, il se fait jusqu'à ce que se fasse le retournement néolibéral, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation pour valoriser les profits, qui succède aux politiques de plein emploi, qui sont les politiques keynésiennes. Et ce retournement se traduit évidemment par une hausse incroyable des taux d'intérêt qui fait que la dette explose. Et donc la crise de la dette commence comme ça, et le mouvement altermondialiste commence comme ça. Les premières luttes, c'est en 1980, commencent les premières luttes contre la faim, évidemment, comme on en voit aujourd'hui, contre la dette, contre le FMI, contre la Banque mondiale, et puis après contre l'OMC. Et donc les premières luttes sont des luttes des peuples du Sud, Bon, donc, cette crise de la gestion de la dette va s'amplifier, va permettre de mettre au pas les pays décolonisés. Et puis alors, on arrive à l'épuisement du néolibéralisme. Épuisement du néolibéralisme, justement, sur la question de la consommation et de l'endettement. C'est-à-dire que, dans la période du capitalisme industriel, le cycle fonctionnait parce qu'il y avait une augmentation des revenus par l'augmentation des salaires, par l'inflation, et ça permettait de financer la consommation qui relançait la production, et on avait un cercle vertueux qui est le cercle vertueux keynésien. À partir du moment où on arrête la hausse des revenus et quand même on abaisse les revenus, à ce moment-là, on crée une crise de surproduction, puisqu'effectivement, il n'y a plus de moyens de consommer, et donc on arrive à la crise de surproduction. Comment on répond à la crise de surproduction ? Par l'endettement des pauvres, par l'endettement des couches populaires. C'est ce qui se passe, et là où ça va le plus loin, c'est aux États-Unis, avec la crise des surprimes, hein, qui est la crise du surendettement des ménages américains sur leur logement. Et cette crise du surendettement, elle montre l'épuisement du système néolibéral. On passe de la crise des particuliers, de surendettement, à la crise des banques, et puis les banques sont sauvées par les États, mais évidemment, il y a... à ce moment-là, un approfondissement de la crise des budgets et de la dette publique. Et donc, on arrive à cette situation dans laquelle la dette publique devient un élément tout à fait déterminant et est la situation actuelle de la crise du néolibéralisme.
Alors, Gus Macia, que faire ?
À bas les paradis fiscaux !
On sait très bien comment sortir de cette crise financière. Les instruments sont connus, ils ont déjà d'ailleurs été donnés, puisque l'économiste en chef du FMI a déclaré il y a quelques mois « Bon, pour résorber la dette, il faut accepter une inflation de 5 à 6%. » Donc, premier instrument pour commencer à dégonfler les dettes, c'est de laisser repartir un peu l'inflation et de reconstruire un processus de cercle vertueux keynésien, en quelque sorte. Deuxièmement, il faut effectivement interdire les paradis fiscaux, puisque une grande partie de la crise de la dette publique vient de la question de la fiscalité. Troisièmement, il faut une fiscalité internationale à travers les taxes antispéculatives de type taxe sur les transactions financières, ce qu'on appelait dans le temps taxe Tobin. Ensuite, il faut absolument interdire que les banques de dépôt puissent être aussi des banques d'affaires. Il faut interdire les marchés dérivés qui créent de la monnaie sans arrêt, sans aucun contrôle. Et puis, il faut évidemment socialiser les banques. Donc, en fait, on sait comment on peut résoudre cette crise financière. Pourquoi on n'y arrive pas ? Parce que le rapport de force au sein même de l'establishment, comme on dit, n'est pas en faveur des modernistes comme Stiglitz ou un certain nombre d'autres qui proposent ces mesures. Elle est quand même dans les mains de l'oligarchie, c'est-à-dire ceux qui vivent des rentes et de la corruption. Et ceux-là, ils ne veulent pas abandonner leurs privilèges. D'ailleurs, on voit bien quand le G20, il y a 2 ans, dit « Mais au fond, peut-être qu'on pourrait baisser les bonus », on lui dit « C'est pas votre affaire ». Donc, on voit bien que même sur cette petite chose, ils n'ont pas le pouvoir de s'imposer. Et donc, on arrive à l'accroissement de la crise, qui est en plus une crise qui a plusieurs dimensions. Sociale, évidemment, crise monétaire, crise financière, mais aussi crise géopolitique, avec le fait que les nouveaux pays qu'on appelle émergents ne sont pas des pays anticapitalistes, mais ce sont des pays anti-hégémoniques. Donc ils disent on peut bien résoudre ces problèmes de crise, mais pas uniquement au profit du bloc hégémonique occidental. Ensuite, il y a une crise démocratique, évidemment, comme on l'a bien vu, des libertés. Et surtout, il y a un élément nouveau. La crise écologique fait qu'on ne peut pas utiliser la même proposition qu'auparavant, trouver un moyen d'augmenter la production et la consommation pour sortir d'une crise de manière durable. Et donc, à ce moment-là, on arrive à cette conclusion que la crise actuelle du néolibéralisme n'est pas seulement une crise du néolibéralisme, c'est aussi une crise du capitalisme, du système capitaliste, c'est-à-dire des modes de production et de consommation.
Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confrères richesses de multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays, c'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie. Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix, dès que vous tombez dans la peur. Je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit. Au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers-monde, chope leur politique. Leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vifs pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Derrière pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce, tout monte les uns contre les autres pour alimenter ma force. Car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions. Libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confrères richesses et multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature.
Nous allons juger la banque. Nous allons nous constituer en tribunal populaire et les banques vont comparaître devant nous et leurs méfaits seront étalés au grand jour. Voici notre procureur et croyez-moi, elle n'appellera pas l'Élysée. Elle.
Merci, monsieur.
Nous entendrons tous les experts dont nous aurons besoin et nous entendrons les témoignages des victimes du système bancaire.
Je peux représenter les victimes.
Bravo. Bravo. Ah, voici une brochette de banquiers.
Et là, c'est le tribunal des banques. Donc, ça y est, vous avez organisé, vous avez préparé. Enfin, la mise en accusation des banques, du système bancaire.
C'est ça, ce sera un tribunal populaire des banques où on va retrouver justement tous ces acteurs qui se cachent et normalement qu'on ne voit jamais. Là, ils vont être présents, ils vont être jugés. Ils vont être jugés par les personnes qui subissent directement les conséquences de la crise.
Voilà, et on a fait un spectacle court de 35 minutes entre deux structures, Attaque d'une part, et puis Nage, c'est une compagnie qui pratique du théâtre de l'opprimé, qui s'appelle Nous n'abandonnerons jamais l'espoir, pour essayer d'expliquer ce qui se passe avec les banques, de manière pédagogique, mais aussi marrante, voilà.
Alors, quels sont les comédiens, quels sont les acteurs politiques, quoi, qui intervient?
Dans le spectacle, on a trois banquiers. Alors après, on a nos procureurs, nos juges, etc. On a le FMI, l'Union européenne et la BCE, la Banque centrale européenne. Et puis après, il y a les plaignants, c'est-à-dire les victimes. On a un couple d'Indiens, on a une fonctionnaire grecque licenciée, on a des gens qui ont été victimes des emprunts aux États-Unis, qui ont acheté des maisons, voilà.
Normalement, on devrait commencer à le savoir. La dette, c'est pas la nôtre. La dette, c'est celle des capitalistes qui se sont engraissés. Et donc, il faut que ce soit ceux qui se sont engraissés et dont on sait d'ailleurs qu'ils sont encore bien gras, c'est à eux de payer la dette. Donc on fait comparaître là au théâtre, en espérant qu'on va le faire rapidement à l'extérieur du théâtre. C'est comme ça que commence la partie où j'interviens. C'est, nous allons faire au théâtre ce que nous devrions faire à l'extérieur du théâtre. Nous allons juger la banque et la condamner.
Les banques sont condamnées sur les chefs d'accusation.
Effectivement, le judiciaire a tranché, mais maintenant, que va faire le législatif ou l'exécutif?
Eh ben, il va faire ce qu'on lui fera faire en descendant dans la rue, peut-être. Je sais pas, les Grecs ont bien commencé, hein, ils secouent très fort, les indignés secouent un peu partout. À nous de pousser tous le plus possible pour que le mouvement emporte une action qui dise non, on ne paiera pas pour les dettes qui ne sont pas les nôtres. Bon, faut le faire. Mais au moins, on a un certain nombre quand même, ici au contre G20, à vouloir le faire aussi.
Dansons la carmagnole, avant le son, dansons la carmagnole, avant le son du pognon.
Monsieur Tina de la BCE,
monsieur Tina de la BCE,
veut faire payer les citoyens pour enrichir les actionnaires.
Veut faire payer les citoyens pour enrichir les actionnaires.
Mais on se laissera pas faire, on veut nos fonctionnaires.
Dansons la carmagnole, avale le son, dansons la carmagnole, avale le son du pognon.
Voilà, c'est aux abattoirs de Nice, les anti-G20 répètent ce spectacle sur le tribunal des banques, vous avez compris, par une troupe qui s'appelle NAGE, N-A-J-E, N-A-J-E, ça veut dire « Nous n'abandonnerons jamais l'espoir ». Et c'est une vieille compagnie théâtrale professionnelle qui pour la transformation sociale, c'était le théâtre de l'opprimé, une vieille histoire qui marche toujours bien et qui veut que le théâtre échappe à la consommation culturelle ostentatoire pour servir à la compréhension et à la lecture du monde et de l'oppression en l'occurrence. Alors parmi les comédiens d'occasion dans ce spectacle, donc il y a Thomas Coutreau qui est le président d'Attac, qui est un économiste tout à fait distingué, tellement distingué qu'on lui a collé un rôle de banquier.
Quoi, c'est plein contre les banques. Encore des clients qui ne peuvent pas payer leurs agios. Des associations de consommateurs râlent sur les frais bancaires.
Ah non, madame le procureur, c'est beaucoup plus grave que ça. J'appelle l'Élysée.
Alors, Thomas Coutreau, vous êtes président d'Attac, présent ici pour ce contre G20. Et vous représentez les banques, là, donc sans foi ni loi pour cette pièce de théâtre.
Oui, c'est peut-être un rôle un peu à contre-emploi, mais je dois dire que j'y prends beaucoup de plaisir. On s'est beaucoup amusé avec les amis d'Attac et de la troupe Nage en montant ce petit spectacle satirique. Manifestement, les banquiers sont promis à un avenir beaucoup moins glorieux que leur passé. La conclusion de la pièce, c'est qu'il faut mettre les banques au service de la société. Il faut socialiser le système bancaire et faire en sorte que les banques ne répondent plus à la seule avidité de leurs actionnaires, mais servent des intérêts collectifs, servent les intérêts de la société, de l'environnement, des besoins réels et pas de l'accumulation infinie de profits et de marchandises. Et ça, c'est évidemment encore de la science-fiction.
Mais c'est le moment.
C'est possible.
C'est possible, c'est le moment.
C'est possible. Nous n'avons pas encore le rapport de force pour l'imposer en Europe. Mais la crise s'aggravant et l'absurdité des propositions avancées par nos gouvernants se faisant de plus en plus évidentes, il est probable que ces idées vont progresser et peut-être même progresser rapidement dans les opinions publiques en France et en Europe dans les mois qui viennent.
Donc vous avez bon espoir, quoi.
En tout cas, tout espoir n'est pas perdu parce que la grande menace qui nous guette et qui est instrumentalisée à fond en ce moment par les médias en France en particulier, c'est la xénophobie, hein, c'est d'attiser la haine et le mépris contre ces Grecs auxquels on a généreusement accepté de réduire leurs dettes et qui nous cracheraient à la figure en convoquant un référendum. On voit aujourd'hui la manœuvre absolument hystérique des médias et quasiment de la totalité de la classe politique. Il y a un déchaînement anti-grec en ce moment qui est proprement scandaleux, inqualifiable, alors que le peuple grec est en état de légitime défense et est acculé à des émeutes, à des grèves à répétition, souffre d'une façon inqualifiable, a connu un recul de 30% de son niveau de vie, mais surtout la fermeture de services publics, les hôpitaux qui n'arrivent plus à soigner les malades, les fonctionnaires qui ne sont plus payés depuis des mois. Enfin, c'est un véritable état de guerre civile qui s'est répandu en ce moment, depuis quelques mois en Grèce. Et voir comment on traite par le mépris la souffrance du peuple grec et ses réactions est absolument insupportable. La question, doit-on continuer à multiplier les plans d'austérité draconiens qui sont en train de détruire l'État social et la société grecque pour payer la dette et rembourser les banques, une dette qui est très largement illégitime dans le cas de la Grèce, comme dans beaucoup d'autres cas d'ailleurs. Ce serait vraiment une avancée démocratique très importante. Ce serait la première fois, à part le précédent islandais, où on a vu un peuple refuser très très majoritairement de payer la dette de ses banques, ce serait la première expérience dans un grand pays européen d'irruption démocratique, d'irruption du peuple dans le débat sur la dette publique. Et ça, ce serait véritablement très intéressant. Maintenant, il est évident que tous les gouvernants, tous les possédants et l'oligarchie européenne est en train de se mobiliser et de faire jouer tous ces réseaux et tous ces pouvoirs pour empêcher cette horreur absolue qui est la convocation du peuple pour répondre à une question aussi importante. Donc là, on est dans un moment d'une très grande intensité où on voit se confronter d'une façon inhabituellement crue la démocratie et la dictature de la finance. Et où on nous explique que, bien sûr, convoquer le peuple, demander son avis au peuple, bien sûr, c'est tout à fait légitime dans nos démocraties avancées. Mais il y a des questions avec lesquelles on ne plaisante pas. Il y a des questions comme celle de la dette publique, sur laquelle il est évidemment irrationnel, consternant, comme a dit Nicolas Sarkozy, de poser la question au peuple.
À Londres,
Nicolas Sarkozy,
la France s'est battue,
23 septembre 2009,
pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Qui peut contester qu'aujourd'hui, des progrès spectaculaires ont été faits en la matière? Pourquoi c'est important? Parce qu'à quoi sert-il, je le dis à nos compatriotes, de faire des règles dans notre pays, si des grandes banques, dans notre pays ou ailleurs, peuvent avoir des filiales dans des paradis fiscaux qui s'exonèrent des règles prudentielles qu'on essaie de faire respecter chez nous? Il n'y a plus de paradis fiscaux.
L'argent pour les peuples, pas pour les banquiers.
L'argent pour les peuples, pas pour les banquiers. L'argent pour les peuples, pas pour les banquiers.
Alors, vous allez un peu désinfecter les quelques agences.
Voilà, alors c'est une action symbolique, pacifique aussi. Alors le but c'est de nettoyer pourquoi? Tout simplement pour dénoncer le pouvoir financier qui se substitue quasiment au pouvoir politique. Voilà, si on ne s'oppose pas, on fait quoi? On abdique? Et ça va être quoi? On aboutira à quoi? À une perte... Maintenant, c'est les pertes des acquis sociaux par les mesures d'austérité. Et un jour, peut-être, tout simplement, ce sera la perte de nos acquis démocratiques si on ne fait pas attention. Voilà.
J'aimerais que les gens en tenue de bankbuster s'avancent un maximum. Alors je rappelle que ceci est une action qui vise à montrer que les citoyens qui en ont marre d'être pris par des pigeons, par la finance, peuvent s'organiser et peuvent agir. On est tous là pour une même raison face au G20, pour que les choses changent.
Voilà, manif aux anti-G20, avec les anti-G20 à Nice, c'était hier, manifestation, théâtre, marche, slogans divers et variés pour évidemment s'opposer aux politiques imposées par le G20. Vous avez compris cet affrontement et qui aujourd'hui est rentré dans une phase particulièrement cruciale. Et là, on est avec des anti-G20 qui entendent désinfecter les banques. Banksters, tremblez!
Alors, Juliette Rousseau, c'est le tribunal populaire des banques, et attaque, édite aujourd'hui ou publie justement un rapport sur ces banques françaises qu'on vient de juger.
Alors en fait, ce rapport, il participe d'une campagne qu'on a lancée au début de l'année avec les Amis de la Terre, parce que quand on s'intéresse un petit peu au système bancaire, on se rend compte qu'il y a quand même une grosse opacité de leurs pratiques, de leurs activités. On a d'abord publié un premier rapport sur la transparence de leurs réponses, à savoir est-ce qu'elles avaient répondu de façon cohérente, est-ce qu'elles avaient vraiment répondu à la question qu'on leur avait posée. Suite à la publication de ce premier rapport, elles ont apporté des précisions pour la plupart. Et donc, avec les précisions, on a écrit un deuxième rapport qu'on a sorti donc aujourd'hui, un gros rapport d'une soixantaine de pages.
Alors, le palmarès.
Alors, le palmarès. Bon, il y a quand même deux banques qui se démarquent très nettement, c'est la Nef et le Crédit Coopératif. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est que les banques mutualistes sont quand même assez pitoyable en fait. On continue d'avoir une opinion assez positive des banques mutualistes en France. Et puis on se rend compte que bon, déjà, deux banques qui n'ont pas répondu sont des banques mutualistes.
C'est qui ?
Alors, les banques mutualistes, c'est donc bon, BPCE, le CIC, le Crédit Agricole est une banque mutualiste aussi. Le Crédit Mutuel, faisant partie du groupe CIC, n'a pas répondu. Voilà, on a également une banque comme la Banque Postale, par exemple, qui bénéficie encore d'une image très sociale, hein, d'une banque accessible, mais qui en fait, quand on regarde un petit peu de presse et politique, notamment salariale et commerciale, est en train de s'aligner sur les pratiques des groupes privés à une vitesse grand V. Et ça se ressent également sur les pratiques managériales, c'est-à-dire notamment l'application de rémunération variable, qui est quand même une aberration. On applique une part importante de rémunération variable aux conseillers clientèle pour les pousser à surcharger de produits financiers leurs clients. Et c'est aussi le cas à la Banque Postale.
Alors, quelles sont nos pires banques ? Alors, celles qui utilisent le plus les paradis fiscaux, qui financiarisent le plus l'argent des déposants ?
Bon, alors, de façon très peu surprenante, hein, dans le rouge, on retrouve assez généralement la Société Générale, la BNP Paribas. Sur les questions environnementales, elles sont catastrophiques. La BNP Paribas, c'est la banque qui finance le plus de projets nucléaires au monde, quand même. Hein, c'est au monde. En fait, finalement, on a tendance à oublier que le service bancaire, c'est un bien commun. Tout le monde y a droit. Et donc, puisque tout le monde y a droit, tout le monde aussi devrait avoir un droit de regard. Donc l'évaluation citoyenne, c'est aussi une façon de réaffirmer ça. C'est-à-dire on a le droit de savoir ce qui se passe et on a le droit d'influencer les décisions, de participer aux décisions.
Alors on peut trouver ce rapport, j'imagine, sur le site d'Attaque.
Alors on peut trouver ce rapport sur le site d'Attaque et sur le site des Amis de la Terre. Donc il y a un rapport de 60 pages, il y a une synthèse d'une quinzaine de pages qui a également été imprimée. Hein, donc on peut trouver auprès des associations l'une comme l'autre.
Alors là, dans les perspectives immédiates, Attaque fait une action. Aujourd'hui, c'est symbolique, hein, sur ce contre G20, c'est aller nettoyer ou même désinfecter quelques-unes des agences bancaires qui sont dans le coin. Donc on va passer en revue, j'imagine, toutes les banques que vous avez analysées dans ce rapport. Hein,
c'est ça. Le copain qui faisait l'animation devant chaque banque a essayé de ressortir un petit fait sur ce qu'a fait la banque, quels sont ses faits d'armes, etc.
Alors, en plus, maintenant, on a une vraie sono, donc c'est parfait. Les gens vont bien pouvoir nous entendre. Donc ça me permet de rappeler à tout le monde. Le G8 et le G20 sont tout aussi illégitimes pour présider aux destinées de la planète. Et lorsque l'on regarde, ils nous avaient promis en 2009 de moraliser la finance, de faire disparaître les paradis fiscaux, et on verra très bien demain que Monaco est toujours un paradis fiscal. Ils nous avaient promis de s'attaquer aux bonus des traders. Aujourd'hui, on est face à une nouvelle étape majeure de la crise. Nous avons payé pour enflouer la finance qui s'est remise à spéculer, qui s'est remise à jouer avec notre argent et à jouer avec la vie des gens. Et ce que nous souhaitons symboliser ici, c'est que nous en avons marre d'être pris pour des pigeons par la finance. Et nous souhaitons agir pour dire, voilà, qu'il est possible d'agir, chacun à notre niveau et collectivement. On y va ? On va désinfecter la première banque qui est sur notre passage, qui est le Crédit Agricole. Allez, c'est parti les bankbusters ! Aujourd'hui, ici à Saint-Roch, opération désinfection de la finance et du système bancaire. Les banques sont des produits nocifs et toxiques pour la santé des citoyens. Bankbusters, en branle. Les banques sont nocives. Allez, on nettoie, on désinfecte.
Et donc là, il y a une trentaine de bankbusters avec des combinaisons blanches qui sont en train d'asperger les vitrines du Crédit Agricole.
C'est du désinfectant écologique. La première désinfection du système bancaire à Nice.
Si vous en avez marre, il y a tous les gamins là qui sont en train de se marrer.
Vive l'Europe, vive l'Europe, vive la France, vive ça, la Thérie, Tunisie.
On nettoie aujourd'hui, opération de désinfection du système bancaire organisée par Attaque. On va relancer la musique. Désinfection de la finance aujourd'hui à Nice. La Société Générale. Allez, on désinfecte, bankbusters. Les banques aujourd'hui ne jouent pas leur rôle, elles ne financent pas l'économie. Elles ne financent pas les besoins sociaux et les urgences écologiques.
C'est pour ça que nous désinfectons ici à Nice.
Et ça gratte, et ça gratte, et ça désinfecte avec les pulvérisateurs et les éponges.
Oui, la Société Générale, la pire banque française peut-être avec les BNP que nous ferons tout à l'heure, impliquée jusqu'au cou dans les paradis fiscaux. Et le G20 n'a rien fait pour s'attaquer au pouvoir des banques. Le G20 est un symbole, celui de l'abdication du pouvoir politique face à la finance. Maintenant qu'on a fait la Société Générale, Banque Buster, je repère une autre banque de l'autre côté de la place, la Caisse d'Épargne. Allez, on entre sur la place. La Caisse d'Épargne, sous ses apparences de banque de l'économie sociale, participez, rejoignez le mouvement. La BNP est la banque française qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Elle est impliquée dans la crise de la dette grecque. Il faut la désinfecter.
Merci à tous. Merci à tous, c'était un reportage d'Antoine Chao à Nice avec les anti-G20. Merci à Gus Macia, Thomas Coutreau, la compagnie Nage, Fabienne Brugel, Wilfried Morin, Juliette Rousseau. Merci à tous. Vous trouverez le rapport d'Attaque et des Amis de la Terre sur la notation citoyenne des banques sur le site www.france.attaque.org. Et n'oubliez pas la nuit des rapaces, mercredi 9 novembre, le journal Fakir. Et là-bas, si j'y suis, vous invite à une soirée festive de lutte contre la finance entièrement gratuite. L'entrée sera libre et gratuite. 19h, salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, Paris 11e, métro Père-Lachaise. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Dophar Guérid et Grégory Vallon, Bertrand Chometon et Franck Allerère étaient à la réalisation assistée de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Avant de me décider sur le choix de plusieurs articles, j'aime savoir où je vais. Même chose pour les services de la banque. Avec LCL à la carte, vous avez droit à un devis précis. C'est écrit dans notre contrat de reconnaissance. Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez plus à votre argent. Voir conditions en agence ou sur lcl.fr.
Ah, la belle voiture! Oh, le beau garçon! Et s'il m'arrivait quelque chose?
Ne fais pas de moron! À la Matmut, t'as la garantie du conducteur!
Même si je suis en tort?
Même si t'es en tort! La Matmut, elle assure!
Ça, c'est sûr, la Matmut, elle assure! Garantie dans les conditions et limites du contrat. France Inter présente Empreinte, la 38e création du cirque national Alexis Grus, actuellement à Paris. Des exploits du cirque équestre de l'époque impériale aux innovations du cirque d'aujourd'hui, Empreinte propose le meilleur des arts de la piste, interprété par les étalons d'Alexis Grus et des talentueux artistes de sa famille. Retrouvez Empreinte, le nouveau spectacle du cirque national Alexis Grus, actuellement porte de Passy, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
On se retrouve lundi pour Là-bas si j'y suis. Lundi, on part en Palestine. Palestine dans quel état? Ramallah, Gaza, Tel Aviv. Un carnet de route au Proche-Orient à partir de lundi dans Là-bas si j'y suis. Dans un instant, vous retrouvez Didier Varro. À lundi donc, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Comme prévu, la marine nationale israélienne a raisonné cet après-midi deux bateaux en provenance de Turquie qui voulaient briser le blocus de la bande de Gaza. L'abordage n'a pas fait de blessés. Le communiqué final du G20 à Cannes n'est pas encore totalement écrit, mais on en connaît déjà les contours. Nicolas Sarkozy les a dévoilés il y a à peine une heure lors d'une conférence de presse. Publication donc d'une liste de 11 paradis fiscaux dont le G20 ne veut plus. Publication également d'une liste de 29 banques dites systémiques qui, de par leur taille, représentent en fait un danger pour l'économie mondiale en cas de faillite. Parmi elles, on retrouve les françaises BNP, Banque Populaire, Crédit Agricole ou encore la Société Générale. Elles devront toutes renforcer leurs fonds propres. Nicolas Sarkozy souhaite aussi la mise en place d'une taxe sur les transactions financières dès l'année prochaine et dans l'Union européenne. Les pays émergents ont promis aussi au cours de ce G20 leur aide pour relancer la croissance mondiale. Mais la brésilienne Dilma Rousseff a prévenu, pas question de contribuer au Fonds européen de stabilité financière. Tout devra passer par le FMI. La Chine aussi a été saluée, notamment par Barack Obama, saluée sur sa promesse d'augmenter la flexibilité du yuan. Le président américain est en train de s'exprimer à Cannes. Il assure aussi que l'Europe est en mesure de répondre à la crise de la dette. Le problème grec a dominé, on le sait, les débats pendant ces deux jours. Après avoir renoncé au référendum, Athènes attend maintenant le vote de confiance du Parlement au gouvernement. Mais la Grèce n'est pas le seul pays dans le viseur du G20, il y a aussi l'Italie. Silvio Berlusconi a confirmé lui aujourd'hui avoir fait appel au FMI pour surveiller et certifier la mise en œuvre des mesures anti-crise dans son pays. Mais pas question, a-t-il dit, d'accepter une aide financière. Pas question non plus de démissionner, a dit le président du Conseil italien. Silvio Berlusconi confirme toutefois qu'il liera l'examen des mesures d'austérité par le Parlement à un vote de confiance à son gouvernement. Il pourrait avoir lieu dans 15 jours. Dans un tout autre domaine, l'incendie du parc national de la Réunion est contenu, mais toujours pas éteint. Les pompiers ont reçu l'aide depuis hier soir du deuxième avion bombardier d'eau. Au total, plus de 2800 hectares de forêt ont été détruits et 51 pompiers ont été blessés lors de l'intervention sur l'incendie. Retrouvés grâce à des traces d'encre, c'est l'histoire de deux braqueurs près de Belfort. On l'apprend aujourd'hui. Ils ont attaqué deux convoyeurs de fonds mercredi. Ils leur ont dérobé la valise de billets qu'ils transportaient, mais lors du braquage, la mallette est tombée et sous l'effet de la chute, eh bien, l'encre du système de sécurité s'est répandu. Les policiers n'ont plus eu qu'à suivre les traces. Ils ont retrouvé les braqueurs dans un immeuble, les mains pleines d'encre violette. Et lorsqu'ils ont été interpellés, les malfaiteurs ont quand même affirmé ne pas être les auteurs du vol. Ils voulaient, disent-ils, seulement nettoyer l'encre. Et puis, il y avait une grosse information que je voulais vous donner pour vous, juste pour vous, Didier Varro. Information
c'est gentil.
C'est une histoire, voilà, hein, vous qui aimez la grande musique, vous serez ravis d'apprendre que votre ami Justin Bieber nie être le père d'un bébé de 3 mois. Sa mère, la mère du bambin, affirme pourtant le contraire. Âgée de 20 ans, elle dit avoir eu une relation avec le grand chanteur de 17 ans après l'un de ses monumentaux concerts. « Je ne l'ai jamais rencontré », a déclaré aujourd'hui Justin Bieber sur NBC. Vous voilà rassuré, j'en suis sûre.
Ça va mieux,
ouais, hein,
je me sens beaucoup mieux. Est-ce que vous aurez d'autres informations comme ça à 18h?
Aussi palpitantes, ouais. J'en ai plein.
Merci Laetitia Gaillet.
Nous autres.
Qu'est-ce qui se cache dans les plis et les replis de notre cerveau?
Zoé Varier.
Que savons-nous de lui, de nous?
Cette espèce de noix comme ça, contourée de sillons, de vallées profondes et de replis dans lesquels s'enfouissent justement toutes nos pensées, toutes nos peurs.
Nous n'en sommes encore qu'à l'aube de notre connaissance du cerveau et c'est déjà fascinant.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
Quand la musique donne... sur France Inter.
Juste avant de retrouver nos deux Julien, Julien Doré et Julien Clerc, pour se mettre en forme, le mix libre du mois de novembre. Il est tout nouveau, tout chaud, il vient d'arriver. Elle s'appelle Dylan, elle est d'origine allemande. Signée sur le label B-Pitch Control, elle nous offre un premier album magistral, fruit d'une inspiration passée, irrigué par Billie Holiday, Jean-Michel Basquiat ou Jeff Buckley.
Tip, tapping. I was tip tapping, tip tapping in the dark. The sound of the leaves when my feet hit the ground. The sound of the leaves when my feet bounce around in the dark. The sound of the leaves when my feet hit the ground. The sound of the leaves when my feet bounce around in the dark in the bar.
Chloé, Jimmy Somerville, Kudlam ou encore Daniel August du groupe Gus Gus ont répondu à l'appel de la sensualité du couple électro Scratch Massive qui sort un troisième album intitulé avec à propos Nuit de rêve.
It's on forever.
premier album pour le groupe breton La Boîte à Outils, qui nous donne la sensation que Tim Burton se retrouve au pays des druides. Une pop qui révèle un autre Finistère.
Je déchiffre les rébus, les charades à l'envers et les vieux papyrus, et je lis même à travers les sarcophages en pierre et les masques de fer. Peut-être est-ce mon imagination qui me fait déchiffrer.
Esmos, l'ancien clavier du groupe Birdie Nam Nam, poursuit son œuvre de réunification entre son godfather, le dieu père du jazz, et ses fils indisciplinés du hip-hop. C'est le volume 2 de son grand mix qui renouvelle l'idée de la sono mondiale.
In the dawn of the day, I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, call me, I'll wet ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around,
jump up and get down.
Jump up and get down.
Everybody jump, 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 jump.
Le mix libre, à retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chansons, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est né à Alès, il est né à Paris, il est auteur, compositeur, interprète, il est compositeur, interprète. Il est jeune et possède déjà sa propre légende. Il était déjà mythique lorsqu'il a produit son premier album. Il avait ses accessoires de protection, barrette dans les cheveux, un ukulélé et une Lolita. Il avait ses décorations.